BFM Business. Tout pour investir, Stéphane Pedrazzi.
Et au sommaire de ce vendredi 24 mai, est-il encore temps d'investir dans la tech américaine? L'action Nvidia a franchi hier soir la barre des 1000 dollars sur le marché américain. Après la publication de résultats spectaculaires, peut-on encore prendre le train en marche? François Monnier, directeur de la rédaction d'Investir, nous apportera son éclairage dans quelques minutes. Comment se porte le marché de l'emploi américain et surtout pourquoi c'est un indicateur intéressant pour la Fed et la politique monétaire? Nathalie Benatia de BNP Paribas nous expliquera l'intérêt de cette publication et surtout quel indicateur choisir parmi tous ceux qui sont publiés aux États-Unis. Rendez-vous tout à l'heure à 10h45. Et puis comme chaque vendredi, les experts de l'IMO autour de Marie-Cœur de Roy, on reviendra sur les derniers chiffres des notaires et de la FNAIM concernant les évolutions de prix et les volumes de vente de logements en France. On fera le point sur le pouvoir d'achat immobilier avec l'évolution des taux de crédit. Puis on parlera de la transformation des bureaux, coworking, nouvelles tendances, nouveaux usages. Rendez-vous donc tout à l'heure à partir de 11h15. Mais d'abord, les marchés financiers. Antoine Larigauderi. Salut Antoine, ravi de vous retrouver. Moins 0,38% pour le CAC. Le tout petit rebond d'hier n'aura pas duré longtemps.
Oui, on limite un petit peu la casse hein, parce qu'en avant-marché, on sentait que le CAC 40 lâchait un petit peu tout, on revenait vers les 8000 points. En gros, sur les niveaux qu'on a atteints en avant-marché, on a commencé globalement sur des plus bas de 2 semaines hein, sur le CAC 40. Donc du coup, un sentiment de découragement. Même chose d'ailleurs du côté du DAX à Francfort, moins 0,58% et moins 0,56% pour l'Eurostoxx 50. On a également des valeurs technologiques qui subissent des dégagements assez nets, hein, moins 0,93% pour l'Euronext Tech Leaders. Avec, encore une fois, un sentiment de découragement. C'est vrai que les résultats d'NVIDIA étaient extrêmement encourageants pour l'ensemble du secteur tech et pour l'ensemble de l'économie mondiale. D'ailleurs, c'était un très très bon indicateur. Malgré tout, à lui seul, Nvidia ne peut pas soutenir le marché à bout de bras tout seul, comme on l'a attendu hein, lors de ses publications précédentes. On voit que maintenant, il y a des problématiques autres hein, qui pèsent sur les marchés, et notamment, encore une fois, le marché obligataire. Hein, ça se tend côté américain au-delà des 4,4%. On est du côté des 5% sur la dette 2 ans. Donc, très clairement, on a l'impression que tout cela va peser sur le cycle économique et ça pèse sur les valeurs industrielles, tout autant que sur les valeurs de croissance, hein, qui sont atteintes de plein fouet par la perspective de taux qui vont rester plus élevés que prévu sur une période un petit peu plus longue. Donc du coup, on a la techno en baisse avec STMicroelectronics hein, qui perd 1,5% à 38,33€, mais Soitec, c'est une baisse de 2,8% à 107,50€. X-Fab Silicone, moins 2,1% à 6,77€. Hein, prise de bénéfice dans le sillage de leur bon comportement hier avec les résultats d'NVIDIA. À noter Vusion Group hein, sur le SBF 120 qui signe la plus forte baisse, moins 10,6%, 142,50€. Orpea, moins 4,8% à 13,56€. On s'est replié sur quoi? Sur Renault qui gagne 1,57% à 48,56€. C'est la valeur refuge du jour. On a Téléperformance aussi qui gagne 1% à 105,20€. Orange, hein, comme toujours, très regardé dans des marchés baissiers. Le titre gagne 0,57% à 10,70€. Danone, plus 0,14 à 59,32€. Vous voyez que des valeurs défensives. Et puis à noter aussi EuroAPI qui est encore acheté après l'annonce de son contrat avec un important laboratoire vétérinaire hier qui avait bien porté le titre. EuroAPI qui gagne 0,6% à 3,60€. Le CAC, donc moins 0,36, on est à 8073 points. Et l'euro face au dollar, 1,0824, Stéphane.
Merci beaucoup Antoine Larigauderi. On se retrouve dans une petite heure pour faire un nouveau point complet en direct du siège d'Euronext. 10h07, le journal de votre argent.
Tout pour investir, le journal de votre argent.
Avec François Monnier, directeur de la rédaction d'Investir. Bonjour François.
Bonjour Stéphane.
On va d'abord revenir sur la publication de la semaine. Nvidia, le leader mondial des processeurs graphiques, a publié un bénéfice trimestriel de 15 milliards de dollars, chiffre d'affaires de 28 milliards, pratiquement multiplié par 4 par rapport à la même période l'an dernier, toujours porté par l'intelligence artificielle. On dit toujours que les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel. Pourtant, chaque trimestre, Nvidia publie des chiffres largement au-dessus des attentes.
Oui, Nvidia arrive à surprendre à chaque fois les investisseurs. Et là, on arrive à des niveaux de parcours boursier qui sont assez spectaculaires. Hein, parce que si vous aviez mis 5 000 $ dans une Nvidia il y a 5 ans, aujourd'hui, vous auriez 125 000 $. Donc c'est un joli pactole et on voit qu'il y a encore de l'appétit pour l'action parce qu'à chaque fois, à chaque trimestre, on a une croissance qui est folle et on a une croissance qui dépasse les attentes des analystes. Ils visaient 240% de croissance, ils ont fait 260% de croissance au dernier trimestre. Ils annoncent encore qu'il y aura la croissance au prochain trimestre. Donc, verdict le 15 août, lorsqu'ils vont dévoiler leur prochaine publication. Donc, on voit que l'engouement, l'euphorie sur l'IA et sur Nvidia continue. En plus, ils ont un excellent marketing parce que là, ils vont diviser par 10 le titre qui a atteint les 1000 dollars. Donc, ça recrée de l'activité. C'est bon pour notamment les particuliers américains qui n'aiment pas avoir des actions dont la valeur nominale est trop élevée. Donc ça facilite un peu le trading et l'animation
ça
du titre.
Ça rend le titre plus liquide, ouais.
Voilà, donc c'était déjà le titre le plus tradé à Wall Street. Hein, ça a dépassé Tesla, qui était avant la coqueluche des investisseurs. Donc là, on est vraiment sur un titre qui est flamboyant. Après, il faut savoir que l'histoire, elle va prendre fin. Alors la question, c'est quand.
On en parlait il y a quelques minutes. Nvidia qui commence à baisser ses prix en Chine.
Oui, alors là, c'est pour l'instant, c'est pas encore un signal de vente, même s'il faut le prendre avec la plus grande attention, parce que souvenez-vous, Tesla avait fait la même stratégie, hein, forte croissance. À un moment donné, ils ont cassé les prix pour continuer à avoir du volume. Et maintenant, ils n'ont pas le volume, ils n'ont pas la croissance, et ils ont une baisse de l'activité. Donc généralement, quand on baisse les prix, ce n'est pas très bon. Là, maintenant, il s'agit bien de savoir, parce que c'est vraiment le marché spécifique chinois, qui avec l'autorité chinoise, qui veut qu'on achète plutôt des cartes et des puces chinoises et pas du Nvidia. Donc il y a un peu de géopolitique. Donc ça brouille un peu le message. Ça ne veut pas forcément dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de demande de produits Nvidia. Donc ça demande éclaircissement. Pour l'instant, en tout cas, ils ont annoncé que pour le trimestre qui sera publié le 15 août, il y aura encore de la croissance. Donc on a une visibilité, mais on a une visibilité à 3 mois. Et pourquoi c'est difficile d'avoir une visibilité plus longue ? Eh bien, tout simplement parce qu'à chaque fois qu'il y a une révolution, une évolution technologique, eh bien, les équipementiers ne gagnent jamais le match. Les équipementiers sont toujours les valeurs et plébiscités au début de cette évolution, de cette révolution, et à la fin, c'est les exploitants qui ramassent la mise.
C'est-à-dire qu'il faudra que Nvidia se réinvente. Au départ,
il faudra
dans les ordinateurs. Aujourd'hui, les puces Nvidia, elles sont utilisées pour les modèles d'apprentissage de l'intelligence artificielle.
Exactement. Il va falloir à chaque fois se réinventer. On voit que c'est pas toujours facile de se réinventer. Hein. En 1850, bien sûr, ce qui marchait, c'était les vendeurs de pelles. Mais aujourd'hui, ce sont les mines d'or, les exploitants des mines qui gagnent beaucoup d'argent, et les vendeurs de pelles, on les a oubliés. Dans les années 80-90, c'était du Intel, parce que on n'achetait pas forcément d'ordinateur, on voulait absolument avoir la puce Intel, et sur vos ordinateurs, vous aviez déjà affiché en très très gros
et
Intel.
Aujourd'hui, si vous demandez à la majorité des utilisateurs, ils savent même pas quel processeur il y a.
Maintenant, c'est pas forcément
c'est plus un argument.
Le sujet, on a vu que c'était les éditeurs de logiciels qui avaient pris la main. Ils s'appellent Apple, ils s'appellent Microsoft, et c'est eux qui ont pris la valeur. Donc, à chaque fois, les équipementiers sont en amont. Hein. Si on regarde la folie Internet, la vague Internet, le développement de l'UMTS, eh bien les grands acteurs, c'était du Nortel au Canada, c'était Lucent aux États-Unis, c'était Alcatel en France, c'était Nokia en Europe du Nord avec Ericsson. Et puis finalement, on a vu que les équipementiers, maintenant, ils sont plus là, et c'est les GAFAM qui exploitent les réseaux, les infrastructures, qui gagnent de l'argent. Donc la fête Nvidia prendra fin un jour. Là, on a une garantie pour 3 mois.
On en parlera tout à l'heure avec Olivier Lévy, président de Lévy Capital Partners, qui viendra nous rejoindre en plateau d'ici une dizaine de minutes. Quelles sont les meilleures thématiques en bourse en ce moment ? D'abord, est-ce que la tech américaine est toujours intéressante ? Est-ce qu'on peut encore prendre le train en marche ? On s'est posé cette question des dizaines de fois, mais à chaque fois que les actions augmentent de manière spectaculaire, et on vient de parler d'Nvidia, on se repose la question.
Là on voit que sur la tech, il y a un petit mouvement de faiblesse, parce que le scénario qui était de dire on va avoir une baisse des taux aux États-Unis, et qui dit baisse des taux dit élément extrêmement favorable et vent porteur pour les valeurs de croissance et donc la tech. Ça, c'était le scénario central depuis le début de l'année. Après, on a accepté qu'il y ait un décalage dans la baisse des taux. Je parle des taux de la Banque Centrale Américaine, qui sont vraiment les taux directeurs, davantage que les taux de la BCE, même si ce que fait la BCE, c'est important. Mais sur les valeurs de croissance, c'est plutôt le baromètre, c'est la Fed. Et là, le scénario qui est de dire, c'est pas grave, ce sera pas en mars, ce sera peut-être en juin, et puis après en septembre. Et puis là, maintenant, on a quand même des signaux qui montrent que finalement, il n'y aura peut-être pas de baisse de taux.
Donc, les élections américaines.
Avant et peut-être après. On a eu Goldman Sachs qui s'est exprimé là, qui est généralement très bien informé, qui dit que maintenant, compte tenu quand même des niveaux d'inflation, c'est pas dit qu'il y ait des baisses de taux en 2024. Donc peut-être que si c'est Trump, il imposera au nouveau patron, puisqu'il veut en changer, c'était déjà lui qui avait installé Jerome Powell, mais là, a priori, il veut en changer. Mais là, on voit que s'il n'y a pas de baisse de taux, eh bien, il y a un peu quand même de moins de mouvements favorables vis-à-vis de la tech. Après, il faudra suivre uniquement la capacité à dégager une croissance forte et profitable et à dépasser les attentes des investisseurs. Ce sera probablement le cas encore chez Microsoft, mais tout le monde n'arrivera pas à suivre le train.
Les secteurs à suivre, la défense, la santé,
oui,
la transition énergétique.
Après, quand même, la belle hausse du marché, on peut imaginer que la bourse a besoin de souffler, et il faut peut-être se positionner sur des sujets ou des thématiques qui ne dépendent pas de la conjoncture à court terme ni le contexte vraiment géopolitique. Donc sur la santé, on a une très bonne visibilité. Sur la défense, on sait qu'il y a des carnets de commandes qui sont de plusieurs années, et donc ça garantit quand même une demande extrêmement forte. On peut le déplorer, mais on peut aussi le constater, et on sait que Thales a annoncé des carnets de commandes assez impressionnants. BAE Systèmes, pareil. Airbus, on a plusieurs années de commandes devant nous, donc c'est important de mettre un peu de visibilité dans un environnement quand même où la visibilité a tendance quand même à se dégrader. D'abord, on ne sait pas où on va sur les taux. Il y a quand même une élection américaine qui se profile en novembre, et on sait qu'il va y avoir probablement de l'agitation, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais sur des décisions politiques. On a quand même des tensions géopolitiques qui sont bien présentes. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même une rotation sectorielle et thématique dans les portefeuilles des institutionnels. Et ce qui marche bien depuis quelques semaines, c'est vraiment le retour des valeurs dites défensives, des valeurs à bonne visibilité, et donc on ne joue pas forcément des dossiers risqués ou des dossiers en très très forte croissance. Tout le monde essaie de chercher quand même un peu de sécurité.
Merci beaucoup François Monnier, directeur de la rédaction d'Investir. Vous restez avec nous. On débattra de ces sujets et d'autres également avec Olivier Lévy de Lévy Capital Partners, qui sera avec nous juste après notre point sur les marchés financiers avec nos deux traders.
Tout pour investir, le match des traders.
D'un côté, Jean-Louis Cussac, trader pour compte propre chez Perceval Finance. De l'autre, Dorian Abadi, analyste bourse chez Meilleur Taux Placement. Bonjour messieurs, bonjour à tous les deux. On commence par vous, Dorian. Comment est-ce que vous regardez le marché? On a une forme de latéralisation. On voit bien que le CAC est en train de s'enfermer dans un range depuis quelques séances.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Bah, effectivement, on a aujourd'hui, ce vendredi, une séance assez calme qui nous attend. On a communiqué en ce sens auprès de nos clients chez Meilleur Taux Placement. Plus largement, c'est une semaine relativement calme qui s'achève. Pour le moment, dans les premiers échanges, le CAC 40 perd 0,40%, moins 1,20% sur la semaine. C'est d'ailleurs une semaine marquée par de faibles volumes d'échanges qui s'achèvent. Mais c'est aussi une semaine marquée par des événements importants qui globalement laissent penser que les taux resteront élevés aux États-Unis, en tout cas plus longtemps qu'anticipés par le marché. Et vous le savez, la politique monétaire, c'est clairement le réacteur nucléaire pour les marchés depuis de nombreux mois déjà. Alors, concrètement, d'un point de vue technique, à court terme, on va surtout surveiller les 8100 points comme objectif. Par extension, pourquoi pas les 8220 points, mais c'est plutôt pour la semaine prochaine, parce qu'on s'attend à rien de bien incroyable en termes de volatilité ce vendredi. Voilà pour les résistances, c'est-à-dire les objectifs supérieurs aux cotations actuelles. Et puis à l'inverse, ce sont principalement les 8000 points et les 7925 que l'on surveille en tant que niveau inférieur aux cotations actuelles, des niveaux intéressants pour racheter le CAC à bon prix. Voilà. Donc on est vraiment confronté à ces niveaux-là. Alors, des niveaux qui ont été relativement peu testés finalement dans l'histoire de l'indice français, parce que c'est toujours bon de le rappeler, on reste scotché au plus haut niveau historique, on n'est pas très très loin, on est à 2-3% grand maximum du record historique, et on pense effectivement qu'on va à nouveau les dépasser et les battre dans les prochaines séances.
Jean-Louis Cussac, Perceval Finance, quel est votre regard sur le marché cette semaine? C'est vrai, il ne s'est pas passé grand-chose, pourtant on avait une publication intéressante, il y avait les chiffres d'Nvidia qui étaient largement attendus. Alors d'accord, ça se passe aux États-Unis, mais on aurait pu s'attendre à davantage de répercussions sur le marché parisien.
Il faut dire déjà, ça avait été anticipé. Deuxièmement, nous, on est plus en situation d'attente. J'ai l'impression qu'actuellement, on est plutôt, si vous voulez, en L'idée, c'est on a la gueule de bois. Les investisseurs se posent beaucoup de questions sur ce qu'il est possible de faire. Vous savez, trouver un catalyseur maintenant sur le marché, c'est pas du tout évident. Voilà, il y a une prudence qui est déjà très importante depuis longtemps. On n'a pas de pression vendeuse. Là, on a reculé, mais sans, il n'y a rien de méchant. Déjà, ce matin, on bondit sur un plus bas qu'on a fait depuis, vous rendez compte, depuis le début mai, quoi. De 7-8, il faut remonter au 8 mai à peu près, je crois. Donc, vous voyez, donc, ça remonte à loin. Moi, je considère que tant qu'on est au-dessus de 8000, on conserve une dynamique haussière, à court terme hein, aussi. Alors, à long terme, bien évidemment, puisque mon retournement, c'est plutôt vers 7770, mais sous 8790, on neutraliserait un peu tout, on casserait la dynamique, on casserait un peu tout. Mais cette dynamique, on la voit encore ce matin. Regardez, on va chercher 8020, on est déjà à 64 sur le futur juin. Donc, il y a des choses quand même qui se passent et qui sont toujours favorables à la recherche d'idées. Mais c'est vrai que là, il y a plus de valeur en baisse qu'en hausse sur les volumes. Il y a la compagnie des Alpes qui a sorti de belles choses, donc elle progresse fortement. Le reste, c'est vrai, c'est assez creux. Donc, on tourne en rond, en fait, hein, c'est ce que vous avez dit hein, sur cette dérive. En gros, c'est on tourne en rond sur l'inflation, sur les problèmes géopolitiques. Mais bon, voilà, tout est scanné, tout est vu, revu, analysé. Et là, on se dit, bon, ben, qu'est-ce qui peut nous arriver de pire? Donc, du coup, on garde un certain optimisme. Et puis, on voit pas de problème à venir. Là, on voit rien. Il n'y a pas de visibilité extraordinaire, mais en même temps, il n'y a pas de problème potentiellement extraordinaire. C'est pour ça que la volatilité implicite reste très faible. Mais ça ne traduit pas une complaisance grave, parce que ceux qui sont acheteurs de volatilité implicite, ce sont les gérants, les spéculateurs, etc. Ce sont ceux qui, lorsqu'ils vendent de la vol, là, à ce moment-là, ils ne savent pas la gérer, donc c'est une catastrophe. Potentiellement, s'il y a un effet domino qui se met en place. Mais là, ce sont les market makers, c'est géré par les algos, il n'y a pas de problème. Le risque de vente de vol, c'est-à-dire d'avoir vendu du put ou du call, est totalement maîtrisé. Donc voilà, on a des marchés qui restent, pas invulnérables, mais quasiment invulnérables, comme je l'ai décrit depuis des mois et des mois et des mois. Et voilà, tout se passe plutôt bien. Les choses sont vues du bon côté et on garde l'espoir que ça puisse continuer, un peu comme Dorian tout à l'heure.
Merci beaucoup à tous les deux. Jean-Louis Cussac, trader pour compte propre chez Perceval Finance. Et merci également à Dorian Abadi, analyste bourse chez Meilleur Taux Placement. 10h21 sur BFM Business.
Tout pour investir, tout pour votre argent.
François Monnier, directeur de la rédaction d'Investir, est toujours avec nous. On accueille Olivier Lévy, président de Lévy Capital Partners. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On a parlé tout à l'heure avec François Monnier des résultats d'Nvidia, résultats spectaculaires. La question qu'on se pose à chaque publication, c'est quand est-ce qu'on va atteindre le point haut, pas seulement sur l'action Nvidia, mais aussi sur l'activité. François nous expliquait les équipementiers sont généralement très présents et très plébiscités au début de l'aventure, mais il y a un moment, c'est comme pour la ruée vers l'or, on ne parle plus aujourd'hui des vendeurs de pelles, nous disait tout à l'heure François Monnier. C'est votre sentiment également ?
Oui, c'est fort probable. Alors nous, on regarde de très près la valorisation de ce type de société, au-delà de l'opérationnel. Dans l'opérationnel, ce que disait, et c'est très juste, évidemment, puisqu'on est en pleine révolution technologique, et Nvidia a été un avant-gardiste. Donc la prime au leader, au visionnaire, à celui qui arrive en premier.
Il commence à y avoir de la concurrence quand même sur ce segment des puces très haut de gamme.
C'est ce que j'allais dire. On rentre dans un oligopole, donc avec un marché qui pourrait possiblement être dans un second temps déflationniste. Donc aujourd'hui, nous, compte tenu de la valorisation à 60 fois les résultats, versus 40 fois pour Amazon, 20 fois, 23 fois pour Alphabet, on réduit la voilure drastiquement, car on a eu évidemment des résultats qui étaient au-delà de toute attente, mais en bonne gestion, on réduit la voilure et évidemment l'opérationnel pourrait rester soutenu ces prochains mois de par la demande et de par cette révolution qui là aussi change radicalement nos usages.
Donc vous êtes vendeur, pourtant on a de la visibilité quand même sur les prochains mois. On n'a pas une visibilité à très long terme, mais François nous le disait, on sait déjà que la prochaine publication devrait être encore très dynamique.
Oui, mais je préfère avoir de la visibilité à 25 fois les résultats qu'à 60-70 fois les résultats, parce que là aussi toute chose a un prix. Et la valeur, là aussi, est à actualiser à l'aune des taux d'intérêt et à l'aune du contexte où là, les marchés ont été très porteurs et un grain de sable pourrait enrayer la machine.
Donc, belle aventure, mais attention à la valorisation.
Tout à fait.
Qui commence à devenir très élevée. On va parler d'un sujet qui concerne tous ceux qui nous regardent. Pourquoi est-ce qu'on doit confier son argent à un conseiller en gestion de patrimoine ?
Bah écoutez, déjà un conseiller en gestion de patrimoine, normalement est affilié à une chambre, donc il est agréé par une autorité de régulation, donc il se doit d'être formé, d'avoir une certaine éducation financière, fiscale, d'avoir les bons réflexes pour être le chef d'orchestre d'un patrimoine qui se doit de répondre à un cahier des charges multiple.
Donc il y a une éthique des compétences.
Une éthique des compétences et un service aussi. Là aussi, alors moi-même je suis multifamily officer, donc je suis CGP, conseiller en gestion de patrimoine. Donc nous devons d'accompagner la feuille de route de nos clients qui est très variable selon le profil, puisqu'on a des entrepreneurs, des professions libérales, des holdings, des petits institutionnels, et donc on s'adapte à leur cahier des charges. À leur cahier des charges qui est multiple. Donc nous ne sommes pas vendeurs de produits, mais nous devons avoir une vision à 360 pour répondre au mieux à leurs besoins. Donc leurs besoins varient en fonction de l'inflation, en fonction là aussi de leur tranche marginale d'imposition, de leurs objectifs à court, moyen et long terme. Mmh. Chez nous, chez Levy Capital, on privilégie la sanctuarisation, d'abord, avant le développement. Donc déjà de protéger en fonction du train de vie, de l'inflation et de la fiscalité, c'est déjà un beau challenge.
François Meunier, je vais faire un peu de provocation, mais avec les applications de trading et l'intelligence artificielle, est-ce qu'on aura encore besoin des CGP dans quelques années ?
Oui, je pense qu'en tout cas, on a besoin de tout l'écosystème. C'est pas un qui va remplacer l'autre, on a besoin de tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'on voit d'abord que le niveau de pédagogie n'est pas encore au niveau. Si on regarde l'épargne des Français, on est sur 6100 milliards d'épargne. Donc deux
pédagogie,
fois la
vous voulez parler du niveau d'éducation financière des Français ? On part de très loin quand même.
Bah oui, mais deux chiffres, on a 6100 milliards d'épargne. Donc beaucoup d'épargne, c'est deux fois la dette de l'État français pour vous montrer l'importance de l'épargne. Et dans cette épargne, vous n'avez que 6% par exemple qui va à la bourse. Et vous avez 13% de cette épargne qui dort sur des comptes non rémunérés, des comptes courants. Donc 6% alors que c'est le meilleur déplacement. Sur 40 ans, vous avez une performance annuelle moyenne de 12,4%. Aucun placement n'arrive à dégager autant de performance. Donc
on voit. Pour quelle raison ? C'est une méconnaissance des mécanismes financiers et des avantages, ou est-ce que les Français n'aiment pas le risque d'une manière générale ?
Il y a un peu de tout. Il y a une méconnaissance, une peur du risque, et peut-être des acteurs qui n'ont pas joué le jeu. Peut-être qu'il y a des établissements, vous le savez, qui préfèrent vendre leurs produits plutôt que de donner de la performance. Vous avez aussi des bons et des moins bons CGP. Il y a des CGP qui préfèrent proposer des produits avec beaucoup plus de marge et de rétrocommission que d'autres. Donc il y a la responsabilité, elle est globale. Mais on voit que les intérêts parfois du conseiller n'est pas forcément aligné sur les intérêts de l'épargnant et de l'investisseur. Donc c'est tout ça qu'il faut bien sûr corriger, parce qu'à la fin, une seule règle compte, c'est la performance et la sécurité du capital.
Olivier, vous avez l'impression de faire de la pédagogie. Vos clients, de par votre activité, ont quand même une certaine connaissance des mécanismes et des produits financiers.
Oui, ils ont c'est très variable, mais évidemment, on les accompagne, on les forme. Ils ont un degré de sophistication.
Les family office ne sont pas des néophytes.
Non, mais ils ont un degré de sophistication qui est variable, puisqu'on touche à toutes les classes d'actifs. Aussi bien le cash, les liquidités, que les actions, les obligations, les contrats d'assurance vie, le private equity. Donc, l'élément central, c'est savoir valoriser et avoir du bon sens par rapport aux configurations de marché. Et notre métier, comme on l'a rappelé ici, c'est aussi d'être stratège, c'est-à-dire d'avoir une vision. Donc, on n'a pas de boule de cristal, mais on doit pouvoir proposer des allocations, des structurations qui conviennent au cahier des charges du client, qui lui aussi, comme vous l'avez mentionné, dans le cycle de sa connaissance, peut être un néophyte ou quelqu'un de très sophistiqué. Mais on lui donne les réflexes aussi à avoir et les bonnes questions à se poser quand sa banque lui propose, par exemple, un produit structuré, un compte à terme. Est-ce que ça répond bien ? Et donc, notre métier, c'est aussi de challenger les banquiers, assureurs, distributeurs de produits financiers de nos clients.
François, mais les family office sont, je veux dire, peut-être un peu plus à l'écoute des opportunités, puisque plus de 20%, c'est entre 20% et un quart de leur épargne, eux, est destinée à la bourse et aux actions. Donc on voit quand même qu'en fonction de la performance et l'attrait et les connaissances financières, eh bien, on s'oriente, j'ai envie de dire, mécaniquement, naturellement, vers ce qui marche. Et c'est pour ça que, par exemple, si on regarde, UBS a sorti une étude globale sur les plus grandes family office, donc les familles les plus aisées qui placent de leur argent, et on voit qu'ils s'orientent vraiment vers ce qui rapporte.
Est-ce que les CGP sont pas un petit peu frileux par rapport à certaines classes d'actifs? Vous avez mentionné le private equity, il y a aussi les cryptos. Évidemment, c'est spéculatif. Mais est-ce que, par nature, il y a une certaine appréhension par rapport à ces supports d'investissement?
Je dirais qu'eux-mêmes se doivent d'être convaincus et prennent un risque, donc se doivent de bien dormir les nuits. Donc c'est un métier très prégnant. Ce que je veux dire, c'est qu'on a un diagnostic. Est-ce que la solution, c'est d'aller vers effectivement du Bitcoin, quand bien même on ne sait pas le valoriser, quand bien même on est qu'au début du cycle, là aussi, de la régulation de ce type de... d'actifs qui pourraient ne pas en être pour certains. Donc je dirais que l'investisseur, l'épargnant, fait en fonction là aussi de son interlocuteur et son degré de formation. Moi-même, je suis ancien banquier, gérant, trader. Donc si vous voulez, j'ai un profil de généraliste de la finance et donc je suis plutôt un couteau suisse par rapport à des gens qui ont été simplement dans la distribution de produits type défiscalisation ou SCPI qui auront tendance à ne vendre que ça, malheureusement, à leurs clients.
On reparlera des cryptos tout à l'heure à 11h45 avec Amaury de Tonquedec, notre spécialiste maison. Il nous parlera des ETF libellés en Ethereum. Ça aussi, c'est une grosse nouvelle sur le marché. Il nous expliquera les tenants et aboutissants et pourquoi ça peut être intéressant d'un point de vue d'investissement. Petite question, vous avez mentionné les comptes à terme et tout à l'heure, François Monnier nous disait il y a beaucoup d'argent qui dorme sur les comptes. C'est le grand retour des comptes à terme, c'est-à-dire ces placements rémunérés qui offrent en ce moment des taux intéressants. La contrepartie, c'est que l'argent est bloqué.
Oui, tout à fait. Vous l'avez dit, ils ont proposé des taux intéressants. Nuance.
Entre 2,5 et 3%, selon
oui.
La maturité.
Bon, bah quand vous avez une obligation aujourd'hui qui rapporte 4,5-5 pour le même degré de risque, ce qu'il y a, c'est qu'avec compte à terme...
Il y a un risque sur le compte à terme.
Le compte à terme, c'est pas liquide.
Ah non. C'est le principe.
C'est le principe, donc il faut mettre une prime ou une décote à cette non-liquidité. Donc, vous avez un dépôt à terme qui représente en France, je crois que c'est de l'ordre de 360 milliards à comparer avec le livret A qui est de 400 milliards d'encours. Le fonds euro, c'est à peu près 1400 milliards. Donc, si vous voulez, oui, il y a eu une recrudescence à un moment donné où les marchés ont été très volatiles. Donc, pour ce niveau de taux, vous prenez effectivement un biais sur les taux en pensant qu'ils vont possiblement continuer à baisser.
Donc ça
Or, ce n'est pas
ça,
le cas.
Ça ne protège pas de l'inflation.
Ça ne protège pas de l'inflation. Ça loque l'argent, ça le verrouille dans le contexte bancaire. Donc le banquier est très content. Sauf que le client, si les taux sont stables ou continuent à progresser, verra son fonds euro progresser. Or, le fonds euro et capital garanti également bénéficient d'une fiscalité meilleure et va avoir des rendements possiblement similaires ou supérieurs.
Il y a des frais sur les fonds en euros.
Il y a des frais qui sont là aussi réduits. Mais je pense qu'on peut comparer les deux supports. Et ce qui note, c'est la fiscalité qui est bien meilleure pour le fonds euro, puisque le compte à terme est soumis à la flat tax, voire à la tranche marginale d'imposition du client. Si vous voulez, il y a avantages et inconvénients, mais je dirais que pour le compte à terme, ça veut dire qu'on prend un biais, qu'on met de l'épargne de précaution dont on n'a pas besoin pendant 2-3 ans, avec le fait avec la possibilité effectivement de voir renier son épargne parce que l'inflation est similaire, donc on n'aura pas gagné d'argent. Et je dirais que les alternatives, c'est simplement les SICAV monétaires qui rapportent 3-3,5% par an aujourd'hui, liquides à tout moment. Là aussi, il y a des petits frais, mais il faut en tenir compte. Le fonds euro de votre contrat d'assurance vie ou votre contrat de capitalisation, qui est une bonne alternative. Et enfin, vous avez aussi la sphère obligataire, qui là offre des taux embarqués sur 3-4 ans, formidable, avec une sensibilité où si les taux baissent, les obligations vont augmenter. Et finalement, vous avez, de manière parcimonieuse, la dette privée, qui, elle, donne des taux de 6 à 7%, avec là, par contre, un risque en capital important. Ouais. Mais je note que les obligations, aujourd'hui, si elles sont bien ratés, investment grade, sont tout aussi solides que les États et donc ce qu'on propose au travers des comptes à terme.
Très très vite, mais j'ai l'impression que parce que là on parle des particuliers, mais les entreprises, les petites entreprises ont souvent recours aux comptes à terme pour placer leur trésorerie.
Oui, alors l'entreprise ne fonctionne pas, on a parlé des cahiers des charges tout à l'heure pour les CGP, l'entreprise ne peut pas fonctionner comme un particulier. L'entreprise, elle a d'abord besoin de faire fonctionner sa société, ouais, de gérer son exploitation à travers le besoin en fonds de roulement, d'une part. Deuxièmement, quand elle a de l'épargne un peu plus longue, eh ben elle place un peu dans ce qu'on appelle les valeurs mobilières de placement, dont font partie les SICAV monétaires ou alors des comptes à terme qu'elle peut rôler, qu'elle peut voir effectivement faire évoluer dans le temps. Et donc, ça a été une pratique courante, vous l'avez mentionné, avec la hausse des taux ces deux dernières années.
François Monnier, les comptes à terme chez Investir, vous aimez ?
Disons qu'aujourd'hui, d'abord, on comprend la position des banques. En fait, il y a beaucoup d'épargne. Vous avez des assureurs qui veulent pousser leurs produits, l'assurance vie en euros, qui retrouvent des nettes de noblesse parce qu'il y a une belle perspective d'amélioration de la rentabilité, parce que maintenant, il faut rentrer les obligations à plus de 4, voire à 8%. Donc, on va avoir plus de 3% en rôle de rendement. Et vous avez des banques qui veulent retenir ce cash en proposant des comptes à terme. Mais de façon opportune, c'est que si vous avez rempli d'abord votre livret, la première règle, c'est remplissez d'abord votre livret A, les livrets réglementés. Une fois que vous avez fait ça, si le surplus de cash, vous en avez besoin peut-être dans 2 mois ou dans 3 mois, ben, n'allez pas dans l'assurance vie ni dans un compte à terme. Allez, prenez peut-être des fonds monétaires. C'est une belle rentabilité et ça vous protège de l'inflation. Et si cet argent, vous n'en avez pas besoin, ben, l'assurance vie en euros remplit le rôle en disant ben, voilà, je place pour 7, 8, 9 ans. Et donc là, on a des poches. Et le quota terme, j'ai envie de dire, aujourd'hui, ce n'est pas forcément la meilleure piste à exploiter.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus en plateau ce matin. François Monnier, directeur de la rédaction d'Investir. Olivier Lévy, président de Lévy Capital Partners. Dans un instant, Nicolas Dose et sa dose d'économie. On est un petit peu en retard. Tout à l'heure à 10h45, plutôt 10h50 d'ailleurs, Nathalie Benatia de BNP Paribas nous expliquera pourquoi les chiffres de l'emploi américain sont intéressants et à suivre évidemment pour anticiper la politique monétaire aux États-Unis.
Tout pour investir, dose d'économie.
Nous sommes vendredi, on a pris un petit peu des libertés avec la pendule. On est en retard, me disait Nicolas Dose. On va parler des salaires, Nicolas. Les salaires dans le vert, c'est le constat dressé par la Banque Centrale Européenne.
La Banque Centrale nous dit plusieurs choses dans l'indice qu'elle a publié hier, la BCE. Elle confirme que les salaires progressent plus que l'inflation. On savait que ça progressait maintenant plus que l'inflation, c'est confirmé. La principale conclusion de cet indice, c'est que désormais en zone euro, en moyenne, en zone euro, les salaires progressent 2 fois plus vite que les prix. Donc le chiffre de la BCE au premier trimestre, plus 4,7% observé pour les hausses de salaire, avec une inflation au mois d'avril sur un an à 2,4%. Alors c'est un chiffre zone euro qui est un peu tordu par le cas de l'Allemagne, parce qu'en Allemagne, oui, on a obtenu de très fortes hausses de salaire, donc ça gonfle un peu cette moyenne. Si on regarde que la France, sur les hausses de salaire, la moyenne, encore une fois, c'est 3,3%, mais ça reste au-dessus aujourd'hui de l'inflation, qui est un peu supérieure à 2%. Troisième enseignement, le rattrapage des salaires, nous dit la BCE, va continuer.
Ouais. Est-ce que ça veut dire que les salariés vont voir leur pouvoir d'achat augmenter ?
Oui, absolument. Le pouvoir d'achat va augmenter. Il y a eu des mois où le pouvoir d'achat était en baisse. Les salaires réels baissaient. Et là, le pouvoir d'achat va repartir. C'est exactement ce qu'on a décrit au début de la phase d'inflation. Fin 2021, début 2022. Au début, vous avez les prix qui partent et les salaires ne suivent pas tout de suite. Ils ne sont pas indexés. Mais effectivement, au fil du temps, avec les négociations, il y a un rattrapage qui s'opère, c'est ce qu'on observe. Et dernier élément de l'indice de la BCE, elle considère que le manque à gagner 2022-2023, eh bien ce manque à gagner sera comblé fin 2025 pour les salariés grâce à la dynamique des salaires. Alors deux spécificités françaises, ça ne concerne pas les gens qui sont payés au SMIC, car les gens qui sont payés au SMIC, leur salaire est le seul indexé en France, donc il a régulièrement augmenté au même niveau, au même rythme que les prix. Et puis autre spécificité française, on parlait de ceux qui payent l'impôt sur le revenu hier ou avant-hier, eh bien, ceux qui ne le payent pas, c'est qu'ils n'ont pas assez d'argent pour le payer. Alors oui, on a en France un problème français qui est un problème de salaire, mais c'est un problème de salaire net, c'est pas un problème de salaire brut, car le salaire net est siphonné tous les mois par les prélèvements obligatoires. Et donc, quand on prend le super brut, par exemple, avec charges dites salariales et dites patronales, vous prenez 3200 euros, brut, vous arrivez à 1750 net. Et désormais, en plus, maintenant, il faut soustraire le prélèvement à la source. Donc, on a en France un problème de salaire net qui est lié au poids des prélèvements obligatoires.
Nicolas, si les salaires augmentent nettement plus que les prix, est-ce que ça veut dire que l'inflation est vaincue ?
Alors ça, on a tout l'air. Il y a quelques jours, j'évoquais le fait qu'on était probablement, on avait des signaux de fin d'inflation sur l'alimentaire. Et puis hier, on a eu le dernier indice des prix dans la grande distribution publié par le cabinet spécialisé de la grande consommation, Circana.
Et ça, c'est assez spectaculaire.
Et c'est oui, parce que ça confirme qu'il y a une page qui se tourne. Le baromètre publié par Circana indique que pour la première fois depuis 30 mois, sur un an, l'indice des prix dans la grande distribution est négatif au mois de mai. C'est-à-dire que c'est moins 0,1. Et on met un moins devant sur un an. Le même indice de la grande distribution Circana en mai 2023 sur un an, c'était plus 16. Donc quand on est à moins 0,1 alors qu'on était à plus 16 un an avant, il se passe effectivement quelque chose. Alors c'est pas très perceptible pour chaque individu qui passe à la caisse. Parce que, évidemment, moins 0,1, on n'est pas sur des grands mouvements de baisse, mais il y a aujourd'hui des baisses de prix. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a donc des signaux de désinflation, ce qui veut dire que ça devrait conforter la BCE, elle devrait bel et bien entamer sa baisse de taux directeurs au mois de juin. Et si les taux directeurs en Europe baissent, assez rapidement, on aura une détente sur le prix du crédit immobilier.
Merci beaucoup, voilà. Nicolas Dose, Dose d'économie tous les matins dans Tout pour investir, et bien sûr de 9h à 10h tous les jours sur notre antenne, Les Experts.
Tout pour investir. En portefeuille.
Avec Renan Blanc, gérant obligataire à la financière Arbevel. Bonjour Renan.
Bonjour.
On s'est beaucoup focalisé sur les banques centrales, notamment sur la réserve fédérale américaine, avec des anticipations de baisse de taux qui ont vraiment été revues à la baisse en l'espace de quelques mois. Certains analystes ont même envisagé qu'il n'y ait pas de baisse de taux aux États-Unis jusqu'aux élections du mois de novembre. La réalité, c'est que la détente des conditions de financement et les résultats d'entreprise ont été pour les marchés des moteurs beaucoup plus puissants que les taux très élevés des banques centrales, en fait.
Bah, c'est l'enseignement de la phase qu'on a vécue. En début d'année, on se souvient, hein, il y avait entre 6 et 7 baisses de taux qui étaient anticipées. Certains prédisent aux États-Unis, un petit peu moins en Europe, avec les vieux réflexes du passé de dire de toute façon la BCE n'agira jamais avant la Fed, c'est jamais arrivé, etc. Bon, on sait que ces dernières années, les choses qui devaient jamais arriver se sont souvent produites. Le vrai enseignement, c'est que le logiciel de pensée des banques centrales est modifié a priori quand même dans la durée. C'est-à-dire que les baisses préventives de taux qu'on a pu connaître dans le passé appartiennent au passé, ça c'est clair, mais c'est pas grave en fait, parce que c'est aussi le signe finalement que les choses vont pas si mal, hein, ce fameux ralentissement en douceur que certains avaient encore du mal à accepter, c'est quand même quelque chose qui est en train de se dessiner. Les entreprises n'ont pas attendu qu'on leur dise d'agir pour prendre des mesures, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de liquidités dans le marché, hein. À la fois les ménages ont beaucoup mis de côté, mais les entreprises sont aussi assises sur des matelas de sécurité assez épais. Et maintenant qu'on gagne un petit peu en visibilité sur le cycle économique et même monétaire, puisque baisse de taux il y aura quand même, hein, ça sera un accompagnement plutôt qu'un grand cycle de baisse, bah, ces liquidités vont être progressivement redéployées. Donc c'est ce qui explique finalement que même si certains ont pu être déçus du retard ou peut-être du rythme inférieur aux attentes sur cet accompagnement monétaire, bah finalement les actifs risqués se portent plutôt pas mal depuis le début de l'année.
La prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne, ce sera le 6 juin. A priori, elle va annoncer une première baisse de taux. Quelle est l'urgence de baisser les taux ? En Europe, 70% des entreprises continuent de se financer principalement avec du crédit bancaire. Est-ce que ça ne montre pas l'urgence justement d'alléger un petit peu la pression et de baisser les taux ?
C'est le facteur qui est vraiment déterminant entre les deux côtés de l'Atlantique. Hein. Au-delà du fait que la croissance américaine est plus élevée qu'en Europe, hein, on le sait tous, hein, ce gap est en train progressivement de se creuser. On sait que depuis le mouvement depuis la crise financière de 2008, il y a un mouvement de désintermédiation qui s'est enclenché. Donc, sous-entendu, les entreprises européennes essayent de rattraper leurs homologues américaines dans leur diversification à l'accès au financement. Elles étaient trop banques, pas assez marché.
Donc ce ratio, quand même. Oui,
le truc, c'est que c'est un process qui est long. Donc ce 70%, ça veut dire que cette fameuse transmission monétaire que la BCE nous rappelle à l'ordre, elle est d'autant plus d'actualité chez nous. Donc ça veut dire que il y a une mécanique qui est un petit peu plus forte sur le fait que cette sensibilité au crédit bancaire face au taux de la BCE. C'est moins vrai aux États-Unis. Clairement, les portes du marché du crédit aux États-Unis sont très grandes ouvertes. C'est des ratios quasiment inverses. C'est-à-dire que c'est 30, un peu plus du tiers aux États-Unis où les entreprises dépendent principalement des banques pour se financer. Donc ce ratio-là, bah, il se voit, cette transmission monétaire, elle doit se faire mieux. Et c'est pour ça qu'on croit depuis un petit moment que la BCE est en capacité finalement de procéder à une première baisse avant la réserve fédérale. Donc c'est pas des divergences hein, de cycle monétaire, c'est plutôt un décalage dans le temps. C'est-à-dire que la Fed, elle va le faire quoi ? Peut-être en juillet, allez, maximum au mois de septembre. Il y a des éléments factuels un peu plus rassurants, notamment sur l'inflation américaine. Mais il n'y a pas de précipitation à voir. Et je finirai là-dessus sur les banques centrales. C'est pas parce qu'elles commencent qu'elles vont aller en accélérant. Elles gardent vraiment toutes les cartes en main et elles vont pas trop dévoiler leur jeu. C'est-à-dire que nous, on pense qu'il y aura 3 baisses de taux en Europe cette année. Mais on va pas avoir un message très clair. Il faut pas s'attendre à un message très clair de la part de la BCE au mois de juin.
Et surtout, je crois que tout le monde est d'accord, on ne reviendra pas à la situation antérieure. Hein. La situation de taux négatif, c'était une anomalie.
Alors, il y a une anomalie
bénie pour les emprunteurs, mais
a posteriori, c'était sans doute ce qu'il fallait faire. Hein. Quand on a le choix entre la peste et le choléra, on choisit la moins mauvaise des solutions. Mais clairement, c'est quelque chose qu'il va falloir oublier. Mais encore une fois, le côté positif, c'est que quand on a des opérations de fusion-acquisition, des choix d'investissement qui sont faits par les entreprises, ils sont beaucoup plus mûris qu'avant. Là, on raisonne vraiment sur les retours sur investissement parce que le cash coûte de l'argent. C'est quelque chose qui n'existait pas pendant le Covid avec ces fameux taux négatifs. Donc, voilà, on atterrit sur une situation un peu plus normalisée, même si j'aime pas trop cette expression. Et finalement, c'est pas plus mal, puisqu'on a des choix d'investissement qui sont plus raisonnés aussi en face.
Depuis l'été dernier, près du tiers des échéances obligataires 2024-2026 ont été refinancées en Europe et pratiquement 40% aux États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les entreprises prennent les devants, elles veulent rester prudentes. Vous disiez, il y a quand même pas mal de prudence dans la gestion de ces entreprises.
Oui, alors, on nous parle souvent dans l'obligataire du fameux mur de dette.
Ouais.
C'est-à-dire, si on se rappelle un an auparavant, beaucoup nous disaient, sur le marché à haut rendement européen, il y a 200 milliards de dettes à refinancer d'ici 2026. Et comment on va faire ? En fait, on va faire. C'est-à-dire qu'on va avancer, pas par pas. Les entreprises prennent les devants, montrent au marché qu'elles sont capables de générer des flux de trésorerie positifs, hein, parce que c'est un petit peu ça le nerf de la guerre. La dynamique des résultats a plutôt été positif, enfin,
oui,
clairement constructif ces derniers trimestres. Hein. Et donc, du coup, là, à date, on a déjà enjambé un tiers de ce mur de dette. Depuis le début de l'année, on a quasiment 50 milliards d'euros d'obligations nouvelles qui ont été émises et qui viennent refinancer la dette existante. Donc, il n'y a pas, entre guillemets, on ne rajoute pas de la dette à la dette. Hein, c'est simplement, on va proposer de racheter par anticipation les dettes courtes pour émettre du plus long. C'est ce qu'on appelle de la transformation. Donc, d'ici le premier semestre de l'année prochaine, ce mur de dette sera quasiment enjambé aux totalités. Donc voilà, faut pas en avoir peur. Hein, l'obligataire, il y a toujours, par définition, un mur de dette. Mais encore une fois, faut pas sous-estimer la capacité d'adaptation des entreprises et le fait que dans un scénario de, certes, croissance molle, mais croissance positive, quand même, tout est pas à jeter. Alors, il y aura des histoire de restructuration, il y en a eu. Hein, on est en plein dans le scénario Atos, on a eu Casino précédemment, mais j'ai envie de dire que c'est vraiment des stigmates post-Covid d'entreprises qui avaient un business model qui n'était viable uniquement par le fait que l'argent ne coûtait rien. Maintenant que l'argent coûte quelque chose, ces business models ne sont plus viables.
Et la génération de cash devient une priorité. Hein.
Ah, ça devient une priorité. Il faut montrer patte blanche, c'est-à-dire que oui, on peut prêter, il n'y a pas de difficulté en soi, mais il faut aussi prouver à un moment donné que cette dette, on va être en capacité de la rembourser un jour. Hein, c'est assez facile à comprendre. Et donc, il y a une minorité du marché de la dette en Europe qui sera amenée à sans doute restructurer d'une manière ou d'une autre sa dette. Alors, ça a différentes formes, hein, soit c'est le cataclysme total à la Casino et là votre dette, ça vaut plus rien. Ou alors vous avez ce qu'on appelle des rallongements ou des réaménagements, c'est-à-dire qu'on va vous payer peut-être un coupon un petit peu plus élevé dans le futur. Voilà, c'est un peu la carotte et le bâton à la fin des fins, mais c'est quelque chose auquel il va falloir se réhabituer pour une minorité. Et donc notre boulot en tant que analyste de crédit est bien évidemment d'éviter ces histoires crédit et d'aiguiller les investissements vers de la dette de meilleure qualité, mais qui aujourd'hui paye un rendement significatif.
Nouvelles conditions de financement, plus dures, plus restrictives, priorité à la génération de cash. Qu'est-ce que ça change pour l'investisseur, ce nouvel environnement, alors, en termes d'allocation d'actifs?
Alors, déjà, l'investisseur redécouvre l'obligataire depuis 2 ans, hein, c'est une réalité. Donc, l'obligataire retrouve sa place dans les allocations stratégiques, hein, une place qu'il aurait peut-être pas dû perdre, mais en tout cas, sous le diktat des banques centrales, ça a été le résultat qu'on a connu. Donc ça, c'est une première chose. Et ce qui est bon pour le crédit est bon pour les marchés actions aussi. Donc il n'y a pas de concurrence déloyale entre les deux. On a des actifs à rendement qui retrouvent finalement leur place dans les portefeuilles et sur les marchés actions. Maintenant qu'on retrouve un petit peu de visibilité sur le cycle économique et monétaire, on le voit depuis le début de l'année. On n'a pas eu ou très peu eu de baisse de taux, voire les taux souverains ont plutôt eu tendance à remonter, ce qui n'a pas empêché de voir des perfs plutôt positives sur les marchés actions. Et on continue à penser qu'il y a encore de la performance à aller chercher sur ce segment. Encore une fois, on ne met pas en opposition les classes d'actifs. Elles peuvent être complémentaires. Et d'ailleurs, on voit qu'en termes de valorisation, on a un petit peu de frétillement au niveau des opérations de fusion-acquisition qui sont encore une fois plus raisonnés qu'avant et qui sont sans doute le stigmate d'un marché un peu plus sain.
Vous dites que le marché obligataire est de retour pour les investisseurs. Quel pourcentage dans un portefeuille type, la poche obligataire?
Alors, nous, on est très peu sur les emprunts d'État parce qu'on pense que voilà, des notions de déficit, etc. Pour une allocation entre guillemets globalement prudente, on peut aller facilement tiers voire 50% selon les supports crédits. Alors ça englobe toute la poche obligataire, hein. On a les placements les plus sécurisés, nous on propose un fonds aussi crédit court qui va bénéficier finalement de baisses de taux à venir, et on peut aussi toujours militer pour les fameux fonds à échéance, hein, qui ont quand même animé le marché ces 2 dernières années et qui permet de figer un rendement sur une maturité un petit peu plus longue, et ça laisse les mains libres à entre guillemets faire son marché sur des poches un peu plus risquées, notamment sur la partie action.
Tout pour investir, le coach.
Comment se porte le marché de l'emploi américain et pourquoi c'est une donnée importante en matière de politique monétaire? Nathalie Benatia est notre coach aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Senior économiste BNP Paribas Asset Management. Alors aux États-Unis, il y a plusieurs publications pour mesurer l'évolution du marché de l'emploi. On va en citer quelques-unes. Il y a bien sûr les chiffres mensuels du département du travail. Il y a l'enquête ADP publiée quelques jours avant. Il y a les chiffres JOLTS. C'est un rapport sur les offres d'emploi disponibles. Et puis, il y a les chiffres hebdomadaires. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de se pencher sur les demandes hebdomadaires d'allocation chômage?
Voilà, effectivement. Alors avec ce qu'on appelle en anglais les jobless claims, c'est-à-dire littéralement le fait que les gens remplissent leur demande, leur première demande, quand ils viennent de perdre leur emploi. C'est intéressant parce que c'est une donnée hebdomadaire, donc on aime bien avoir de la matière. C'est intéressant parce que ça apporte une autre vision. C'est vraiment les gens qui sont effectivement inscrits au chômage, alors que le rapport sur l'emploi, par exemple, c'est une enquête. C'est-à-dire qu'on demande aux ménages est-ce que vous travaillez, est-ce que vous ne travaillez pas. Si vous ne travaillez pas, êtes-vous disposé à travailler, etc. C'est la même différence. Alors, en simplifiant énormément, qu'entre les chiffres français de la DARES,
du ministère du Travail.
Du ministère du Travail, les inscriptions à France
Travail.
France Travail maintenant, oui. Et les chiffres de l'INSEE, c'est une enquête. Voilà, on est vraiment dans la même idée, mais avec la différence qu'aux États-Unis sont des données hebdomadaires, alors qu'ils ne sont pas forcément magnifiques d'un point de vue statistique.
Parce que elles sont très volatiles, je crois.
Elles sont très volatiles, et d'ailleurs, le département qui publie ces données précise que c'est finalement l'agrégation de données administratives. Ils écrivent le terme. Donc ça fait des données volatiles. On les regarde en général lissées sur 4 semaines. C'est un peu moins volatile, mais même malgré ça, il n'y a pas une fiabilité extrême de ces données. Mais j'allais dire, évidemment, quand l'économie ralentit, il y a plus de chômeurs. Et quand il y a plus de chômeurs, ça se voit d'abord dans ces données.
Ce sont des données brutes, hein. Il n'y a pas de correction, notamment des effets saisonniers, où il y a quand même une petite correction.
Alors, il y a une petite correction, mais il précise aussi que c'est difficile. Et typiquement, alors, très rapidement, là, il y a 2 semaines, les chiffres ont surpris à la hausse. Donc, mon Dieu, plus de chômeurs, ça veut dire que l'activité ralentit. C'est comme ça que ça a été pris sur les
marchés. Et c'était perçu comme une bonne nouvelle, on va y revenir.
Absolument. Et on s'aperçoit en creusant un petit peu que manifestement, le spring break, alors pas tellement le fait d'aller faire la fête au Mexique, mais les vacances scolaires de Pâques ont joué, notamment dans la région de New York, parce qu'elles n'étaient pas au même moment que d'habitude. Et par exemple, ce genre de formulaire peut être rempli par les gens qui conduisent les bus scolaires. Ben, pendant les vacances, ils ne conduisent pas les bus scolaires, et donc voilà.
Donc il y a effectivement un effet saisonnier. Pourquoi est-ce que la situation du marché de l'emploi, elle est surveillée par la Fed alors qu'elle l'est beaucoup moins par la Banque Centrale Européenne?
Alors elle est surveillée par la Fed d'abord parce que ça fait partie de son mandat, de son fameux double mandat, hein, d'inflation et d'emploi, enfin d'inflation à la cible et d'emploi maximum. Et puis parce que, alors on a coutume de dire le taux de chômage c'est un indicateur retardé du cycle.
C'est vrai.
C'est vrai et pas vrai en même temps, puisque précisément dans ces données de chômage, d'emploi, d'évolution de l'emploi, on a quand même une bonne idée de ce qui peut se passer. Et là, ce que tout le monde recherche, y compris la Fed, ce sont des signes de ralentissement.
Comment se porte le marché de l'emploi aux États-Unis? Est-ce que toutes les données dont je parlais au début, c'est-à-dire le rapport mensuel, l'enquête ADP, le rapport JOLTS et les demandes hebdomadaires d'allocation chômage, est-ce que ces données, elles sont cohérentes entre elles?
Alors, en ce moment, à peu près, et en tout cas le message, c'est le marché du travail aux États-Unis reste encore très solide. La deuxième partie du message, et qui est importante, c'est qu'il est moins exubérant qu'il n'a été il y a par exemple un an et demi, à deux ans. On a des signes de normalisation, mais ce sont vraiment des signes encore limités, encore ténus.
La normalisation, comme vous dites, c'est quelque chose qu'attend le marché. Et ça, c'est un peu le paradoxe de l'histoire depuis déjà pas mal de temps aux États-Unis. Good news is bad news et inversement, c'est-à-dire qu'on aimerait une mauvaise nouvelle entre guillemets sur le marché de l'emploi, voilà. C'est-à-dire un ralentissement du marché de l'emploi, voilà. Parce que ça serait perçu comme une bonne nouvelle en matière de politique monétaire.
Absolument. Alors on aimerait, à vrai dire, une mauvaise nouvelle limitée, hein, parce qu'il faut malgré tout, enfin si l'économie bascule en récession, effectivement, la Banque centrale devrait baisser rapidement ses taux, mais ce ne serait une bonne nouvelle pour personne. En revanche, si l'économie se stabilise, se normalise, ne présente plus ses risques de surchauffe, dans ce cas-là, la Banque centrale pourrait initier son cycle de politique monétaire.
C'est difficile de prévoir la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. En ce moment, d'ailleurs, les anticipations de marché ont énormément évolué. Elles ont été revues à la baisse. On a une économie qui ralentit, mais pas du tout ce qui était prévu au départ. On se demandait même si on allait avoir un hard landing il y a encore quelques mois. Et puis, on a un marché de l'emploi donc, qui est très dynamique. Et on a une inflation qui est tenace. La Fed avait prévenu, le dernier kilomètre, c'est le plus difficile.
Voilà. Alors, cette expression du dernier kilomètre, c'est plutôt une expression de la BCE d'Isabelle Schnabel, mais ça marche pour toutes les banques centrales. Oui, on a eu un ralentissement rapide de l'inflation.
Elle avait dit que le travail, la lutte contre l'inflation, le combat contre l'inflation n'était pas terminé.
Voilà.
C'est ce qu'avait dit Jerome Powell.
De toute façon, les banquiers centraux ne sont jamais satisfaits de leur lutte contre l'inflation, mais c'est vraiment très important puisque, encore une fois, ce que veulent les banquiers centraux, c'est finalement s'assurer que le cycle économique se déroule le plus souplement possible. Donc, on surveille les données. Et Jérôme Powell, en ce moment, il dit que la Fed est data dependent, mais alors lui, il est extrêmement data dependent. On est typiquement à ce moment des cycles économiques où il va falloir prendre une décision et où les avis peuvent être très tranchés au sein des comités de politique monétaire.
Je ne vais pas vous demander une prévision parce que c'est très facile de se tromper et personne n'a de visibilité, mais est-ce que c'est envisageable que la Fed ne baisse pas du tout ses taux cette année? Goldman Sachs l'a encore dit il y a quelques jours.
Alors honnêtement, on voit donc très fortes fluctuations des anticipations dans les marchés, fortes fluctuations aussi des anticipations de ce qu'on appelle les économistes de marché, les grandes maisons que vous citiez. Nous, on est plutôt, malgré tout, dans le camp d'un début de la baisse cette année. Et puis, surtout, ce qui va être important, on va bientôt sortir, finalement, de « est-ce que la Fed va baisser cette année ?» C'est « que vont faire les banques centrales l'année prochaine ?» Et là, la question qui va se poser sera importante pour l'ensemble des marchés financiers.
Il y a une chose dont quasiment tout le monde est sûr, c'est qu'on ne reviendra pas à la situation ex ante. Les taux négatifs, c'était une anomalie.
Oui, c'était une anomalie. La question qui agite les économistes en ce moment, c'est où est le taux neutre, le taux qui assure le parfait équilibre, un monde parfait. Et donc ça agite les économistes, ça agite les banquiers centraux. Il y a des estimations qui sortent, mais personne n'est très sûr de cette estimation, d'où les questions importantes pour 2025.
Merci beaucoup, Nathalie Benatia, senior économiste chez BNP Paribas Asset Management. Dans un instant, un point sur l'actu avec Léo Dumas. Et puis on parlera d'immobilier à partir de 11h15 avec Marie-Cœur de Rouen. Nos invités.
Tout pour investir sur BFM Business.
Today's episode is sponsored by NerdWallet's Smart Money Podcast. Get your head in the financial game with smart investing and budgeting tips straight from the nerds. NerdWallet's experts will set future you up for success with dependable, fact-based insights. No financial misinformation allowed. Learn how to save on your summer vacation, find your next credit card or loan for a big purchase, and invest in your next index fund. Make smarter decisions in 2024. Follow NerdWallet's Smart Money Podcast on your favorite podcast app.